Nous allons écouter deux lectures maintenant. La première lecture se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Elle nous permet de rejoindre, si on peut dire, le moment fatidique de la crucifixion et un dialogue qui s'instaure entre les deux brigands et le Seigneur Jésus sur la croix. Donc au chapitre 23 de l'évangile de Luc, à partir du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés injuriait Jésus, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Je vais lire encore un verset dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 19. De Timothée 2, verset 19. C'est une parole que, comment on pourrait dire ça, qui est soulignée dans le texte, parce qu'elle est introduite d'une manière qui en fait une parole spécialement importante. Hein. Voilà. Donc, Paul vient de dire, certains renversent la foi, certains ont un mauvais comportement qui peut troubler. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Heureusement, sinon la foi serait plus possible. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, de tampon, deux paroles. Un, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Deux, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Bon, mon message ce matin, si je lui donne un titre, je l'appellerai les marques du chrétien. Et mon intention en partageant ce message, c'est que d'une part nous puissions reconnaître ces marques du chrétien quand elles existent chez ceux que nous rencontrons. Est-ce qu'elles y sont? Est-ce qu'elles n'y sont pas? Voilà. Mais aussi que nous nous interrogions pour savoir si ces marques sont bien visibles, ne sont pas en train de s'estomper, de s'effacer, d'être recouvertes par je ne sais quoi. Et donc voilà, notre regard est double, ceux qui sont autour de nous, mais aussi nous-mêmes. Il y a dans les églises ou ailleurs peut-être des personnes qui aimeraient connaître avec certitude qui est chrétien et qui ne l'est pas. Or, c'est un privilège qui appartient à Dieu seul. Et le texte que nous avons lu dans la deuxième lettre à Timothée le dit, Dieu connaît ce qui lui appartient. Sous-entendu, Dieu seul connaît ce qui lui appartient. En d'autres termes, le berger connaît ses brebis. Le berger connaît toutes ses brebis. Le nom des brebis est inscrit sur sa main. S'il en manque une, il le sait très bien. Et personne ne les ravira de sa main, mais les brebis ne connaissent pas, comme le berger, tout le troupeau et qui est une brebis et qui ne l'est pas. Ils connaissent un petit peu, mais pas comme le berger. Le berger connaît ses brebis, il les aime, il les conduit, les brebis ne le connaissent pas comme lui. Donc le Seigneur connaît ce qui lui appartient, c'est un privilège qui revient à Dieu seul de connaître d'une manière certaine qui est chrétien et qui ne l'est pas. Je crois que c'est important de le rappeler. Et la seconde parole qui sert de tampon, c'est « quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité », ça veut dire que chacun regarde plutôt à lui-même. Et ça, on le voit plusieurs fois dans l'Écriture, c'est la poutre et la paille. Hein. Bien sûr, tu peux ôter la paille de l'œil de ton frère, je le redirai dans quelques instants, mais d'abord, regarde à toi-même. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que ces marques du chrétien sont visibles, sont repérables dans nos vies par les autres chrétiens et par les non-chrétiens? Est-ce que quand ils me voient, ils voient, tiens, il y a les marques du chrétien dans la vie de cet homme, ou de cette femme, ou de cet enfant? D'autres, certains voudraient connaître avec certitude qui est chrétien, qui ne l'est pas. D'autres disent, de toute façon, on ne peut pas savoir, et même on ne peut rien savoir. Et même pour soi-même, on ne sait pas. Il y en a qui disent ça, hein? Voilà. Et alors, ils ont une belle formule, très sympathique. Ils disent, on est tous en chemin. Ce qui n'est pas complètement faux, mais ce qui est un peu trompeur. Parce que voilà, celui qui ne croit pas, il est en chemin. Celui qui croit, il est en chemin. Celui qui pêche, il est en chemin. Celui qui ne pêche pas, il est en chemin. Et donc, sous-entendu, on est tous lotis de la même manière. Et on va tous se retrouver ensemble, on ne sait pas trop où. Voilà. Et donc, c'est une manière de dire, non seulement on ne peut pas savoir avec certitude, mais en fait, on ne sait rien de manière véritable. Et donc, laissons faire. Voilà. Laissez-nous tranquilles avec ça. Or, la Bible dit quand même que s'il ne nous revient pas de savoir de manière certaine, il nous revient quand même de discerner où nous en sommes nous-mêmes. Pourquoi ? Ben pour avancer. Si je sais où j'en suis, je peux davantage faire le pas qui doit être fait, franchir l'étape qui doit être franchie, me préparer pour l'étape qui est devant. C'est comme ça qu'on grandit. Et donc, je dois savoir, un randonneur, il doit savoir où il est pour pouvoir avancer. Voilà. Et même pour les autres, hein, même pour ce qui concerne les autres, je ne sais pas avec certitude, je ne sais pas de manière infaillible qui est chrétien ou pas, mais quand même c'est utile de le savoir un petit peu. Pourquoi ? Ne serait-ce que pour aider quelqu'un. Parce qu'on n'aide pas un chrétien comme on aide un non-chrétien. On peut aider les deux ont besoin d'être aidés, les deux peuvent connaître des situations différentes. Mais à un chrétien on va dire une chose, à un non-chrétien on va dire quelque chose de différent, parce que leurs deux positions ne sont pas similaire. Et donc, ce n'est pas pour juger d'une manière négative, ce n'est pas pour se mettre à la place de Dieu qu'on a besoin de le savoir, ça, il ne faut pas le faire. Voilà. Il ne faut pas se mettre à la place de Dieu, c'est-à-dire se mettre en hauteur et regarder les autres comme on pourrait dire des enfants dans une cour de, dans une classe de l'école. Mais voilà, on ne doit pas juger, encore moins. On ne doit pas juger dans ce sens-là, encore moins mépriser. Pourquoi juges-tu ton frère ? Pourquoi méprises-tu ton frère ? dit Paul dans l'Épître aux Romains. Mais par contre, il nous est demandé de connaître quand même. Certes, pas de manière infaillible, mais de connaître qui sont nos frères et qui ne sont pas nos frères. Parce qu'il y a des commandements précis qui concernent nos relations avec nos frères et sœurs et d'autres commandements qui concernent ceux qui ne sont pas chrétiens. Voilà, on pourrait dire être gentil avec tout le monde, c'est bien beau, mais ça ne répond pas aux exigences que la parole de Dieu nous demande. Par exemple, aimez-vous les uns les autres ? Eh bien, les uns les autres, c'est les chrétiens. C'est comme ça. Les uns les autres, c'est les chrétiens. Voilà. On l'a chanté tout à l'heure, hein, aimer les rachetés du Seigneur. Voilà. Nous devons à nos frères et nos sœurs chrétiens quelque chose de spécifique, hein, qui relève de la communion, qui relève de l'espérance commune, qui relève du secours. Si ton frère a péché, c'est le frère chrétien. Donc si un non-chrétien fait n'importe quoi, on peut lui dire pourquoi tu fais ça. On peut dire aussi à un chrétien pourquoi tu fais ça. Donc ça se ressemble, mais quand même les deux ne sont pas dans la même posture. Et envers mes frères et mes sœurs, j'ai une responsabilité fraternelle, une responsabilité de membre de corps de Christ, une responsabilité d'amour même, comme on l'a entendu tout à l'heure. Hein. Si nous aimons celui qui fait naître de nouveau, nous aimons ceux qui sont nés de nouveau. Voilà. Qui aime Dieu aime aussi son frère. Et donc voilà, beaucoup de commandements dans l'Écriture nous rappellent la priorité de ce que nous devons vivre en tant que membres d'un même corps, d'un même peuple. Ce n'est pas infaillible, mais quand même c'est nécessaire. Donc il faut rappeler les deux choses. Et certaines fois, il faut rappeler à celui qui est trop sûr de lui, attention, tu peux te tromper. Tu peux te tromper, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un ressemble à un chrétien, et il ne l'est pas. Eh bien, on peut se tromper. Hein? Enfin, pour l'aider, ce serait mieux de savoir. Calvin le dit, il y aura des hypocrites dans l'Église. Hein? Ça veut dire des personnes qui donnent le change, qui on dirait, mais non seulement ils sont chrétiens, mais ils sont des chrétiens de première classe. Hein? En fait, ce sont des hypocrites. Donc, ce n'est pas agréable à entendre, hein? Mais ça veut dire, Dieu seul connaît, avec certitude. Et ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » ne sont pas tous destinés à rentrer dans le royaume de Dieu. Certains sont là parce que c'est un endroit sympathique, parce qu'on profite de bonnes choses et parce qu'on est mieux là qu'ailleurs, mais ils sont chrétiens simplement de surface. Et d'autres, par contre, c'est important aussi, on pourrait dire celui-là, peut-être qu'il n'est pas chrétien. En fait, il est. Mais ça ne se voit pas de manière si claire, hein, parce que peut-être qu'il ne va pas bien, parce que peut-être il a été mal instruit. Un chrétien mal instruit, il croit des choses qui ne sont pas justes. Mais c'est peut-être un chrétien quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? Un chrétien à qui on a dit « Marie est montée au ciel avec son corps », ben, il croit que Marie est montée au ciel avec son corps. Donc ce n'est pas un chrétien. Mais si, c'est un chrétien, mais il a été mal instruit. Donc il faut voir celui qui l'a instruit. Mais lui, il faut lui expliquer que le fondement de notre foi, c'est l'Écriture, et l'Écriture ne dit pas ça du tout. Donc on ne le croit pas, on ne le confesse pas. Et il vaut mieux même pas le croire du tout, parce que croire une chose fausse, ça ne fait pas grandir, et même c'est même pas la foi. Ce matin, j'ai entendu sur France Culture, présence protestante, voilà, la foi, ben, l'important c'est la foi, qu'il y ait un Dieu ou pas. J'ai entendu ça, hein. Qu'il y ait un Dieu ou pas, l'important c'est la foi. C'est gentil, hein. C'est rassembleur, c'est inclusif. Enfin voilà, on ne sait plus trop de quoi on parle. Voilà. Donc un chrétien mal instruit, on peut dire celui-là, il n'est pas chrétien, il est quand même chrétien. Donc vous voyez, faire attention. Ou un chrétien, voilà un chrétien qui part sans dire au revoir. On dit, c'est pas un chrétien. Ah ben si, c'est un chrétien, mais il ne va pas bien. Voilà, il ne va pas bien, il est en souci, il a mal au ventre, il est inquiet pour son épouse, il a envie d'être tout seul. Donc il s'en va, il n'a pas dit au revoir. Ce n'est pas un chrétien. Mais si, c'est un chrétien. Donc voilà, ne nous pressons pas pour tirer des conclusions. Calvin le dit, hein, on ne juge pas sur un seul fait, une seule parole ou un seul moment. C'est important, hein? Voilà, on ne juge pas sur un seul fait, une seule parole ou un seul moment. Dieu seul juge, mais quand même, il nous appartient de savoir un petit peu pour pouvoir nous diriger et nous aimer les uns les autres, et vivre comme des frères et sœurs. Et alors, j'ai repéré dans la première lettre de Jean, cette belle lettre de Jean qui se trouve à la fin du Nouveau Testament, on peut repérer 5 marques. Alors, je ne vais pas en parler pendant 20 minutes sur chacune, hein, mais quand même, 5 marques qui permettent de dire, ça c'est la marque d'un chrétien. Alors, s'il n'y en a qu'une, on va dire, c'est un peu insuffisant, mais quand même, il y en a une. S'il y a les 5, c'est pas mal. Donc, c'est encore pas infaillible, mais s'il y a les 5 marques, on a une forte probabilité que la personne soit une chrétienne, un chrétien. Mais, je répète ce que j'ai dit, est-ce que dans ma vie, ces 5 marques sont bien en place et sont bien visibles? Est-ce que ces 5 marques sont repérables par les autres chrétiens qui vont être confortés dans leur conviction de communion fraternelle, mais peut-être aussi par les non-chrétiens qui vont dire, tiens, celui-là, il y a 5 marques qu'on ne voit pas chez tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Viens à la maison, je vais t'expliquer. Voilà. Alors, on va énumérer simplement ces 5 marques et chacun pourra les méditer ensuite s'il le veut. Première marque, un chrétien est quelqu'un qui se reconnaît pécheur. Alors vous voyez, c'est un sujet, c'est pas un sujet qui nous fait courir et sauter de joie. Hein? Donc on dirait, mais quand même, c'est quoi cet évangile qui nous humilie, qui nous rabaisse, le péché, qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est comme ça. Celui qui voit la gloire du Seigneur, il voit son péché. C'est comme ça. Beaucoup de passages de l'Écriture le disent. Quand Jésus permet une pêche miraculeuse, l'apôtre Pierre dit « Malheur à moi, je suis un homme pécheur, je suis perdu. » Et le passage que nous avons lu du brigand sur la croix, il voit dans un même mouvement, dans une même révélation, il voit que Jésus est sans péché et il dit « Nous avons ce que méritent nos crimes. » Il paraît que c'est rare un malfaiteur qui reconnaît ses crimes. Voilà. C'est rare chez les gens qui mènent une vie ordonnée aussi, mais chez les malfaiteurs tout autant. Mais lui, c'est un malfaiteur, il reconnaît ses crimes. Et un malfaiteur qui dit « Nous avons ce que méritent nos crimes », ça arrive très rarement. Mais là, c'est arrivé. Pourquoi ? Par révélation. C'est Dieu qui le montre. Et en même temps, Dieu a montré que Jésus... Comment cet homme, dis-je, lui n'a rien fait de mal ? Comment le sait-il ? C'est pas un disciple, n'est-ce pas ? Voilà. Mais le Seigneur lui révèle, voilà, par sa lumière, hein, que Jésus est sans péché. Et du coup, il dit, « Moi, je suis un pécheur. » Et il appelle Jésus au secours. Donc, je voudrais quand même mentionner le verset dans la première lettre de Jean qui le dit clairement. Hein, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il fait Dieu menteur, ce qui est gênant, et la vérité n'est pas en lui. Voilà. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier. C'est pourquoi dans nos cultes, nous rappelons chaque dimanche ou pratiquement l'importance de confesser nos péchés. Non pas pour nous humilier, oui, mais parce que l'humilité précède la gloire. Parce que Dieu relève celui qui s'humilie, hein, et il abaisse celui qui s'élève. Et nous avons appris cela. Et donc l'humiliation devant Dieu précède une belle joie d'être relevé par Dieu lui-même, qui nous a humiliés, mais qui nous a relevés dans le même mouvement, en quelque sorte. Voilà. Martin Luther dit « Dieu déclare juste celui qui se déclare pécheur ». Voilà. C'est un merveilleux résumé de l'Évangile, je trouve. Hein. Dieu déclare juste celui qui se déclare pécheur. Et donc c'est un passage obligé de dire « je suis pécheur ». De le dire à Dieu, mais aussi de le dire, hein, peut-être, hein, devant quelqu'un un jour. Et je pense à un pasteur d'une grande église de Nîmes, voilà, j'en dis pas plus, qui me dit un jour au téléphone, « Dans mon église, je n'entends jamais, je te demande pardon. » Tiens, tiens, tiens. Et donc ça le troublait un peu. Et donc, dire à quelqu'un « Je te demande pardon », c'est pas si facile, hein, mais c'est guérissant. C'est guérissant, ça prépare le chemin de la grâce. Probablement, c'est précédé de joie inédite, qui valent bien les joies qu'on grappille un petit peu à droite et à gauche. Se demande pardon. Et dans un couple, en difficulté, ça arrive, hein? Le premier qui demande pardon, il introduit la grâce dans son couple. Probablement, dans l'heure qui suit, l'autre va dire « moi aussi, c'est gagné ». C'est trop facile, mais ce n'est pas si facile que ça, frères et sœurs, de demander pardon. Mais c'est la marque du chrétien. Bon, c'est mon premier point. Je vais être un peu plus rapide pour les autres. Le deuxième point, c'est chercher à plaire à Dieu. Ce n'est pas compliqué comme formule, hein. Enfin, encore faut-il le vivre. Plaire à Dieu. Voilà. Est-ce que sur le front d'un chrétien, on lit « plaire à Dieu » ? Pourquoi tu as marqué ça ? Je vais te le dire, viens à la maison, je vais t'expliquer ce que ça veut dire « plaire à Dieu ». C'est une joie de plaire à Dieu, de vivre pour plaire à Dieu. Qu'on soit seul ou en compagnie, en bonne santé ou malade, jeune ou vieux, riche ou pauvre, plaire à Dieu, c'est une source de joie, c'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, dit la Bible. Et donc, plaire à Dieu, on pourrait le mettre sur le mur de nos maisons, on pourrait le mettre sur nos mains, on pourrait le dire le matin en se levant, « Seigneur, mon désir est de te plaire. » Non pas faire ce qui me plaît seulement, mais faire ce qui te plaît. Dire la parole qui te plaît, la parole à laquelle tu peux dire « Amen » toi-même, la parole que tu approuves, la parole juste, la parole qui réjouit les anges, la parole qui réjouit ceux qui aiment la vérité. Faire ce qui te plaît. Et donc ne pas faire ce qui te déplaît. Se soucier de ce qui plaît à Dieu, de ce qui ne plaît pas à Dieu. Vous croyez que c'est si fréquent que ça? Dans la cour des écoles, sur la route, dans les maisons, quand les volets sont fermés et compagnie. Vous croyez que c'est si fréquent que ça de rechercher ce qui plaît à Dieu? Est-ce que ce n'est pas la marque d'un chrétien? Probablement que oui. Certainement que oui. Alors, le verset qui le dit, j'aurais dû commencer par ça. Voilà, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Ça veut dire que vous n'attristiez pas le Seigneur, mais que vous cherchez ce qui lui est agréable. Ce qui est agréable à Dieu. Et en cherchant ce qui est agréable à Dieu, on va dire, par exemple, dans telle ou telle circonstance, oui, là non. Tiens, pourquoi tu dis non? Tu veux que je te le dise? Viens à la maison, on va pouvoir en parler un petit moment. Voilà, parce que Dieu n'aime pas. Voilà. Donc un enfant, il peut dire, mon papa n'aime pas, ma maman n'aime pas, mais il peut dire aussi, parce que Dieu n'aime pas. Comment Dieu n'aime pas? Vous imaginez le chemin que ça peut faire dans la conscience de quelqu'un d'autre, parce que Dieu n'aime pas quand on fait ça. Et donc je ne le fais pas. Ouf! J'avais pensé à ça. Mais ça demande un peu de courage de dire ça, hein? Mais si deux le font, c'est un peu moins difficile, hein? Et donc fais-le, tu encourageras quelqu'un d'autre à le faire, hein? Si les parents font pareil, c'est plus facile pour les enfants. Si le grand frère ou la grande sœur le fait, c'est plus facile pour le petit frère ou pour la petite sœur. Si nous le faisons, ce sera plus facile pour d'autres. Si d'autres le font, ce sera plus facile pour nous. Oui, là non. Pourquoi tu dis non? Parce que ça ne plaît pas à Dieu. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important. Ça compte beaucoup. Parce que si Dieu peut se réjouir de ma vie, c'est une source de joie pour moi incomparable. Et si Dieu est attristé, comment serais-je heureux? Voilà. Comme chrétien, je suis devenu sensible à cela. On pense à l'apôtre Pierre qui a pleuré amèrement après avoir renié de connaître Jésus. Et il a pleuré parce qu'il a eu honte de lui, mais il a pleuré parce qu'il a croisé le regard de Jésus et il a vu la tristesse dans le regard de Jésus. Et il a pleuré amèrement. Et il a fallu que Jésus le prenne par la main, le relève et l'envoie en mission. Donc voilà, c'est quand même possible. Troisième marque du chrétien, qui ressemble un petit peu à la seconde, aimer la parole de Dieu. Bon, on le sait, hein? On le sait, mais est-ce qu'on le vit? Il y a des hommes et des femmes de tout âge qui, quand ils ont découvert l'amour du Seigneur et sa parole, ont passé des heures et des heures à la lire, hein, et n'arrivaient plus à s'arrêter. Quand il faisait quelque chose, quoi que ce soit, il leur tardait que ça finisse pour aller ouvrir la Bible et se plonger dedans. Parce qu'ils avaient découvert que c'est comme la lettre de quelqu'un qu'on aime. N'est-ce pas? C'est comme la lettre de la fiancée ou du fiancé, on la met sur son cœur pour pouvoir la lire à tout moment. N'est-ce pas? Et même quand on ne la lit pas, on sait qu'elle est là. Le psaume 119 le dit. Voilà, je serre ta parole sur mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Vous voyez? Deuxième signe, troisième signe, pas pécher contre Dieu, serrer sa parole dans notre cœur. Voilà. Comment faire la volonté de Dieu si on se fie simplement au petit bonheur, la chance, je sais pas trop, on est tous en chemin. Non, 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 non. Dieu nous a fait connaître quand même sa volonté de manière assez claire. Et donc, pour celui qui aime ce que Dieu aime, eh bien, le temps passé devant la parole de Dieu, c'est un temps passé avec Dieu. Le temps passé devant la parole de Dieu, c'est un temps passé avec Dieu. Et l'apôtre Paul dit, quand nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés à sa ressemblance par le Saint-Esprit. Alors nous, protestants, on va dire, contempler le Seigneur, comment on va faire? Une bougie, une icône, je sais pas quoi? Non. Quand nous lisons la Bible, frères et sœurs, avec des cœurs attentifs, nous sommes en train de contempler le Seigneur. Nous plongeons nos regards dans ce que Dieu a dévoilé de ce qui est dans son propre cœur. C'est plus important, c'est plus grand que ce que nous imaginons probablement. Bon, alors après, smartphone, Bible en papier, ça, je ne rentre pas dans le sujet, hein. Peut-être que ce n'est pas important, peut-être c'est important, je n'en sais rien, mais le temps que nous passons devant la Bible ouverte, hein, je vais le dire comme cela, c'est un temps incomparable, frères et sœurs. On n'est pas le même à la fin qu'au début, même si ça a pris que 10 minutes. il ne faudrait pas moins que 10 minutes. Parce que 10 minutes, ça veut dire que je suis encore en train de penser à ce que je faisais avant et je pense déjà à ce que je vais faire après. Il faudrait que ça soit un moment que pour ça. Le Seigneur est sensible à ça. Et notre cœur, Donc, aimer la parole de Dieu, j'ai oublié de lire le verset, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Paf. On est loin de l'amour sentimental dont on nous berce les oreilles du matin au soir, un peu partout. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et là, je vous encourage à lire ou à relire le psaume 119. Moi-même, pendant des années, j'ai sauté ce psaume, il est long. Et maintenant, s'il n'y avait plus que lui, je me dirais, c'est pas grave. Psaume 119, mais franchement, ce psaume, voilà. Je serre ta parole sur mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ta parole est plus précieuse pour moi que 1000 objets d'or et d'argent, plus douce à mon palais que le miel. Elle me rend plus sage que mes ennemis. Elle est une lampe sur mon sentier, une lumière devant mes pas. Le psaume 119 qui dit l'amour pour la parole de Dieu. Et donc c'est un troisième signe du chrétien, quelqu'un qui dit la parole de Dieu, on verra plus tard, on peut douter qu'il connaisse vraiment le Seigneur, surtout si ça dure un peu longtemps. Voilà. Le quatrième, je suis en littéraire moi, donc les chiffres, vous voyez, bon. Le quatrième, il est aussi évident, mais quand même, on va le dire, c'est aimer la personne de Jésus. Voilà. Et là, au début du chapitre 4, il est dit « Quiconque confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. » Alors, confesser Jésus-Christ venu en chair, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des mots qu'on ne comprend pas très bien là. Ce n'est pas simplement parler de Jésus. Parce qu'un incroyant peut parler de Jésus, frères et sœurs. Un incroyant peut dire, ouais, ben Jésus, on ne sait pas trop, mais quand même, c'est plutôt sympa, il a guéri des malades, tout ça, ça manque aujourd'hui. Enfin, un incroyant peut parler de Jésus, mais il ne confesse pas Jésus. Comprenez la différence entre les deux? Voilà, confesser Jésus, ça veut dire, c'est impossible de ne pas en parler. Est-ce que le nom de Jésus est dans ma bouche au moins une fois par jour? Si le nom de Jésus n'est jamais sur ma bouche, il y a quelque chose qui est un peu étonnant, vous voyez. Il y a une déficience, il y a une lacune, il y a un vide. Comment ça se fait? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelle place Jésus prend dans ma vie, dans mon cœur? Dans la liste des priorités, il est où? Au 1, au 2 ou au 5. Voilà. Et donc, c'est une folie de parler de Jésus aujourd'hui, où que ce soit. Même dans l'Église, on pourrait dire quelquefois, on se demande si on en parle encore, on peut parler de tant d'autres choses. Voilà. Mais si Jésus a sa place, s'il est le premier de la création, le premier dans le salut, le premier dans la gloire, puisque tout est créé par lui et pour lui, si Jésus-Christ est premier, son nom doit sortir normalement de nos bouches, au moins de temps en temps, qu'on l'entende. Jésus, né d'une vierge, mort pour l'expiation de nos péchés, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ressuscité corporellement comme le premier d'un grand nombre, il nous prépare une place pour que là où il est, nous soyons aussi avec lui. Jésus, sans lequel il n'y a pas de salut, pas de réconciliation, pas de vie éternelle. Ben, il faut le dire, hein. Alors, le dire ici, c'est pas trop difficile. Hein. Dans d'autres circonstances, c'est moins facile. Hein. Mais il faut le dire. Voilà, vous serez mes témoins. Confessez Jésus, parole éternelle de Dieu, devenu homme pour accomplir notre rédemption. C'est le troisième point. Et le dernier, ben, il suit le quatrième, c'est aimer les frères et les sœurs. En Christ. Faire des kilomètres s'il le faut. Sortir même s'il pleut. Sortir même si on est fatigué. Pour rencontrer des frères et des sœurs. pas comme des membres d'une association qui passent un bon moment ensemble. C'est pas seulement ça, j'espère qu'on peut comprendre ça. C'est pas simplement passer un bon moment, c'est édifier le corps de Christ. Ça veut dire rassembler des briques et des pierres pour en faire une habitation dans laquelle Dieu réside. Aimer les frères et les sœurs. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Voilà. L'amour pour Christ et l'amour pour les frères, c'est un seul et même amour. Ce ne sont pas deux amours différents, c'est le même. On aime le corps et la tête, si vous voulez. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez tout entier, n'est-ce pas ? La tête, c'est Christ, le corps, c'est nous. C'est le même amour. Et donc l'amour des frères et sœurs en Christ, ceux qui vont bien, ceux qui ne vont pas bien, ceux qui sont bien instruits, ceux qui sont mal instruits, mais l'amour des frères, même si ce n'est pas infaillible dans notre tête qui est frère et qui n'est pas frère, l'amour des frères, c'est une démonstration de l'amour de Dieu. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, vous connaissez la suite, hein ? Tout le monde verra que vous êtes mes disciples. Alors quelquefois on me dit, mais alors, et les autres ? Ben, ils verront que vous êtes mes disciples. C'est déjà pas mal. Alors, on récapitule hein, les 5 points. Est-ce que je vais m'en souvenir moi-même ? Normalement, oui. Hein. Voilà. Savoir se reconnaître pécheur. C'est un passage obligé pour connaître la grâce. Chercher à plaire à Dieu. Vivre pour plaire à Dieu. Aimer la parole de Dieu. Aimer les commandements de Dieu. Ils sont justes et vrais. Aimer la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Attendre son retour tous les jours. Aimer les frères et les sœurs du même amour que j'ai pour Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur, merci pour l'enseignement de ta parole. Ou le trouver ailleurs aussi véridique, aussi fondamental, aussi solide que dans les pages du livre, que ton esprit rend vivante. Et tu inscris dans nos cœurs, Seigneur, ces vérités pour qu'on puisse les lire, pour que d'autres puissent les lire quand nous sommes ici ou là. Seigneur, nous sommes à la fois tellement reconnaissants de ce que tu nous as révélé et accordé. En même temps, Seigneur, humbles et pauvres encore, te priant de nous prendre par la main, de nous conduire, de nous faire grandir, de nous affermir. Et Seigneur, habité par ce désir d'être agréable à celui qui nous a aimés. Et détester, Seigneur, ce que tu détestes. Et aimer ce que tu aimes. Même si on devait être tout seul à le vivre ainsi. Mais par ta grâce, on n'est pas tout seul, Seigneur. Et c'est notre joie de marcher ensemble, de nous encourager les uns les autres. Merci de passer devant nous, merci d'ouvrir la route. Merci de nous rappeler la joie du salut quand nous sommes découragés, attristés. Merci pour cette joie, Seigneur. Elle est sans fin. Elle est sans fin. Nous te prions, Père Céleste, au nom de Jésus. Notre Sauveur. Amen.